Le lendemain, lorsque Rambert entra pour la deuxième fois dans le restaurant espagnol, il passa au milieu d'un petit groupe d'hommes qui avaient sorti des chaises devant l'entrée et goûtait un soir vert et or où la chaleur commençait seulement de s'affaisser. Il fumait un tabac à l'odeur âcre. À l'intérieur, le restaurant était presque désert. Rambert alla s'asseoir à la table du fond où il avait rencontré González la première fois. Il dit à la serveuse qu'il attendrait. Il était 19h30. Peu à peu, les hommes rentrèrent dans la salle à manger et s'installèrent. On commença à les servir et la voûte surbaissée s'emplit de bruits de couverts et de conversations sourdes. À 20h, Rambert attendait toujours. On donna de la lumière. De nouveaux clients s'installèrent à sa table. Il commanda son dîner. À 20h30, il avait terminé sans avoir vu González ni les deux jeunes gens. Il fuma des cigarettes. La salle se vidait lentement. Au dehors, la nuit tombait très rapidement. Un souffle tiède qui venait de la mer soulevait doucement les rideaux des portes-fenêtres. Quand il fut 21h, Rambert s'aperçut que la salle était vide et que la serveuse le regardait avec étonnement. Il paya et sortit. Face au restaurant, un café était ouvert. Rambert s'installa au comptoir et surveilla l'entrée du restaurant. À 21h30, il se dirigea vers son hôtel, cherchant en vain comment rejoindre González dont il n'avait pas l'adresse, le cœur désemparé à l'idée de toutes les démarches qu'il faudrait reprendre. C'est à ce moment, dans la nuit traversée d'ambulances fugitives, qu'il s'aperçut, comme il devait le dire au docteur Rieu, que pendant tout ce temps, il avait en quelque sorte oublié sa femme, pour s'appliquer tout entier à la recherche d'une ouverture dans les murs qui le séparaient d'elle. Mais c'est à ce moment aussi que, toutes les voies une fois de plus bouchées, il la retrouva de nouveau au centre de son désir, et avec un si soudain éclatement de douleur qu'il se mit à courir vers son hôtel pour fuir cette atroce brûlure qui l'emportait pourtant avec lui et qui lui mangeait les tempes. Très tôt, le lendemain, il vint voir cependant Rieu pour lui demander comment trouver Cottard. « Tout ce qu'il me reste à faire, dit-il, c'est de suivre à nouveau la filière. » « Venez demain soir, » dit Rieu. « Tarou m'a demandé d'inviter Cottard, je ne sais pourquoi. Il doit venir à 10h, arriver à 10h30. » Lorsque Cottard arriva chez le docteur, le lendemain, Tarou et Rieu parlaient d'une guérison inattendue qui avait eu lieu dans le service de ce dernier.
« 1 sur 10, il a eu de la chance, » disait Tarou.
« Ah bon ?»
dit Cottard.
« Ce n'était pas la peste. »
On l'assura qu'il s'agissait bien de cette maladie.
« Ce n'est pas possible, puisqu'il est guéri. Vous le savez aussi bien que moi, la peste ne pardonne pas. »«
En général, non, » dit Rieu. « Mais avec un peu d'entêtement, on a des surprises. »
Cottard riait.
« Il n'y paraît pas. Vous avez entendu les chiffres ce soir ?»
Tarou, qui regardait le rentier avec bienveillance, dit qu'il connaissait les chiffres, que la situation était grave, mais qu'est-ce que cela prouvait ? Cela prouvait qu'il fallait des mesures encore plus exceptionnelles.
« Eh, vous les avez déjà prises ?»«
Oui, mais il faut que chacun les prenne pour son compte. »
Cottard regardait Tarou sans comprendre. Celui-ci dit que trop d'hommes restaient inactifs, que l'épidémie était l'affaire de chacun et que chacun devait faire son devoir. Les formations volontaires étaient ouvertes à tous.
« C'est une idée, »
dit Cottard.
« Mais ça ne servira à rien. La peste est trop forte. »
« Nous le saurons, » dit Tarou sur le ton de la patience, « quand nous aurons tout essayé. »
Pendant ce temps, Rieu, à son bureau, recopiait des fiches. Tarou regardait toujours le rentier qui s'agitait sur sa chaise.
« Pourquoi ne viendriez-vous pas avec nous, monsieur Cottard ?»
L'autre se leva d'un air offensé, prit son chapeau rond à la main.
« Ce n'est pas mon métier. »
Puis, sur un ton de bravade,
« D'ailleurs, je m'y trouve bien, moi, dans la peste, et je ne vois pas pourquoi je me mêlerais de la faire cesser. »
Tarou se frappa le front, comme illuminé par une vérité soudaine.
« Ah, c'est vrai, j'oubliais. Vous seriez arrêté sans cela. »
Cottard eut un haut-le-corps et se saisit de la chaise comme s'il allait tomber. Rieu avait cessé d'écrire et le regardait d'un air sérieux et intéressé.
« Qui vous l'a dit ?»
cria le rentier.
Tarou parut surpris et dit
« Mais vous ? Ou du moins, c'est ce que le docteur et moi avons cru comprendre. »
Et comme Kotar envahit tout à coup d'une rage trop forte pour lui bredouiller des paroles incompréhensibles,
« Ne vous énervez pas, »
ajouta Tarou.
« Ce n'est pas le docteur ni moi qui vous dénoncerons. Votre histoire ne nous regarde pas. Et puis la police, nous n'avons jamais aimé ça. Allons, asseyez-vous. »
Le rentier regarda sa chaise et s'assit après une hésitation. Au bout d'un moment, il soupira.
« C'est une vieille histoire, »
reconnut-il,
« qu'ils ont ressorti. Je croyais que c'était oublié. Mais il y en a un qui a parlé. Ils m'ont fait appeler et m'ont dit de me tenir à leur disposition jusqu'à la fin de l'enquête. J'ai compris qu'ils finiraient par m'arrêter. « C'est grave ?»
demanda Tarou.
« Ça dépend de ce que vous voulez dire. Ce n'est pas un meurtre, en tout cas. Prison ou travaux forcés ?»
Kotar paraissait très abattu.
« Prison, si j'ai de la chance. »
Mais après un moment, il reprit avec véhémence.
« C'est une erreur. Tout le monde fait des erreurs. Et je ne peux pas supporter l'idée d'être enlevé pour ça, d'être séparé de ma maison, de mes habitudes, de tous ceux que je connais.
« Ah ?» demanda Tarou.
« C'est pour ça que vous avez inventé de vous pendre. Oui, une bêtise, bien sûr. »
Rieu parla pour la première fois et dit à Kotar qu'il comprenait son inquiétude, mais que tout s'arrangerait peut-être.
« Oh, pour le moment, je sais que je n'ai rien à craindre. »«
Je vois, »
dit Tarou.
« Vous n'entrerez pas dans nos formations. »
L'autre, qui tournait son chapeau entre ses mains, leva vers Tarou un regard incertain.
« Il ne faut pas m'en vouloir. »«
Sûrement pas. »«
Mais essayez au moins, »
dit Tarou en souriant,
« de ne pas propager volontairement le microbe. »
Kotar protesta qu'il n'avait pas voulu la peste, qu'elle était arrivée comme ça et que ce n'était pas sa faute si elle arrangeait ses affaires pour le moment. Et quand Rambert arriva à la porte, le rentier ajoutait avec beaucoup d'énergie dans la voix
« Du reste, mon idée est que vous n'arriverez à rien. »
Rambert apprit que Kotar ignorait l'adresse de Gonzalez, mais qu'on pouvait toujours retourner au petit café. On prit rendez-vous pour le lendemain. Et comme Rieu manifesta le désir d'être renseigné, Rambert l'invita avec Tarou pour la fin de la semaine à n'importe quelle heure de la nuit dans sa chambre. Au matin, Kotar et Rambert allèrent au petit café et laissèrent à Garcia un rendez-vous pour le soir, ou le lendemain en cas d'empêchement. Le soir, ils l'attendirent en vain. Le lendemain, Garcia était là. Il écouta en silence l'histoire de Rambert. Il n'était pas au courant, mais il savait qu'on avait consigné des quartiers entiers pendant 24 heures afin de procéder à des vérifications domiciliaires. Il était possible que Gonzalez et les deux jeunes gens n'eussent pu franchir les barrages. Mais tout ce qu'il pouvait faire était de les mettre en rapport à nouveau avec Raoul. Naturellement, ce ne serait pas avant le surlendemain.
« Je vois, »
dit Rambert.
« Il faut tout recommencer. »
Le surlendemain, au coin d'une rue, Raoul confirma l'hypothèse de Garcia. Les bas quartiers avaient été consignés. Il fallait reprendre contact avec Gonzalez. Deux jours après, Rambert déjeunait avec le joueur de football.
« C'est idiot, »
disait celui-ci.
« On aurait dû convenir d'un moyen de se retrouver. »
C'était aussi l'avis de Rambert.
« Demain matin, nous irons chez les petits, on tâchera de tout arranger. »
Le lendemain, les petits n'étaient pas chez eux. On leur laissa un rendez-vous pour le lendemain midi, place du lycée. Et Rambert rentra chez lui avec une expression qui frappa Tarou lorsqu'il le rencontra dans l'après-midi.
« Ça ne va pas ?»
lui demanda Tarou.
« C'est à force de recommencer, »
dit Rambert. Et il renouvela son invitation.
« Venez ce soir. »
Le soir, quand les deux hommes pénétrèrent dans la chambre de Rambert, celui-ci était étendu. Il se leva, emplit des verres qu'il avait préparés. Rieu, prenant le sien, lui demanda si c'était en bonne voie. Le journaliste dit qu'il avait fait à nouveau un tour complet, qu'il était arrivé au même point et qu'il aurait bientôt son dernier rendez-vous. Il but et ajouta
« Naturellement, ils ne viendront pas. Il ne faut pas en faire un principe, »
dit Tarou.
« Vous n'avez pas encore compris ?»
répondit Rambert en haussant les épaules.
« Quoi donc ? La peste !» Hein ?
Furieux.
Non. Vous n'avez pas compris que ça consiste à recommencer.
Rambert alla dans un coin de sa chambre et ouvrit un petit phonographe.
Quel est ce disque ?
Demanda Tarou.
Je le connais.
Rambert répondit que c'était St. James Infirmary. Au milieu du disque, on entendit deux coups de feu claquer au loin.
Un chien ou une évasion ?
Dit Tarou. Un moment après, le disque s'acheva et l'appel d'une ambulance se précisa, grandit, passa sous les fenêtres de la chambre d'hôtel, diminua, puis s'éteignit enfin.
Ce disque n'est pas drôle,
dit Rambert.
Et puis cela fait bien 10 fois que je l'entends aujourd'hui. Vous l'aimez tant que cela ?
Non,
mais je n'ai que celui-là.
Et après un moment,
je vous dis que ça consiste à recommencer.
Il demanda à Rieu comment marchaient les formations. Il y avait 5 équipes au travail. On espérait en former d'autres. Le journaliste s'était assis sur son lit et paraissait préoccupé par ses ongles. Rieu examinait sa silhouette courte et puissante, ramassée sur le bord du lit. Il s'aperçut tout d'un coup que Rambert le regardait.
« Vous savez, docteur, »
dit-il,
« j'ai beaucoup pensé à votre organisation. Si je ne suis pas avec vous, c'est que j'ai mes raisons. Pour le reste, je crois que je serai encore payé de ma personne. J'ai fait la guerre d'Espagne. De quel côté ?
Demanda Tarou.
Du côté des vaincus. Mais depuis, j'ai un peu réfléchi. À quoi ?
Fit Tarou.
Au courage. Maintenant, je sais que l'homme est capable de grandes actions. Mais s'il n'est pas capable d'un grand sentiment, il ne m'intéresse pas. On a l'impression qu'il est capable de tout,
dit Tarou.
Mais non, il est incapable de souffrir ou d'être heureux longtemps. Il n'est donc capable de rien qui vaille.
Il les regardait et puis...
Voyons, Tarou, êtes-vous capable de mourir pour un amour ?
Je ne sais pas.
Mais il me semble que non, maintenant.
Voilà.
Et vous êtes capable de mourir pour une idée, c'est visible à l'œil nu. Eh bien, moi, j'en ai assez des gens qui meurent pour une idée. Je ne crois pas à l'héroïsme. Je sais que c'est facile et j'ai appris que c'était meurtrier. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on vive et qu'on meure de ce qu'on aime.
Rieu avait écouté le journaliste avec attention. Sans cesser de le regarder, il dit avec douceur
« L'homme n'est pas une idée, Rambert. »
L'autre sautait de son lit, le visage enflammé de passion.
C'est une idée, et une idée courte, à partir du moment où il se détourne de l'amour. Et justement, nous ne sommes plus capables d'amour. Résignons-nous, docteur. Attendons de le devenir, et si vraiment ce n'est pas possible, attendons la délivrance générale sans jouer au héros. Moi, je ne vais pas plus loin.
Rieu se leva avec un air de soudaine lassitude.
Vous avez raison, Rambert. Tout à fait raison. Et pour rien au monde, je ne voudrais vous détourner de ce que vous allez faire, qui me paraît juste et bon. Mais il faut cependant que je vous le dise. Il ne s'agit pas d'héroïsme dans tout cela. Il s'agit d'honnêteté. C'est une idée qui peut faire rire, mais la seule façon de lutter contre la peste, c'est l'honnêteté. Qu'est-ce que l'honnêteté ?
Dit Rambert d'un air soudain sérieux.
Je ne sais pas ce qu'elle est en général. Mais dans mon cas, je sais qu'elle consiste à faire mon métier.
Ah !
Dit Rambert avec rage.
Je ne sais pas quel est mon métier. Peut-être, en effet, suis-je dans mon tort en choisissant l'amour.
Rieu lui fit face.
Non,
dit-il avec force.
Vous n'êtes pas dans votre tort.
Rambert les regardait pensivement.
Vous deux, je suppose que vous n'avez rien à perdre dans tout cela. C'est plus facile d'être du bon côté.
Rieu vida son verre.
Allons,
dit-il.
Nous avons affaire.
Il sortit. Tarou le suivit, mais parut se raviser au moment de sortir, se retourna vers le journaliste et lui dit
Savez-vous que la femme de Rieu se trouve dans une maison de santé à quelques centaines de kilomètres d'ici ? Rambert eut un geste de surprise. Mais Tarou était déjà parti. À la première heure, le lendemain, Rambert téléphonait au docteur. Accepteriez-vous que je travaille avec vous jusqu'à ce que j'aie trouvé le moyen de quitter la ville ? Il y eut un silence au bout du fil et puis... Oui, Rambert. Je vous remercie.